autant pour moi, monsieur Haddad. On va projeter des slides aussi sur l'écran. Donc, on vous remettra en image, si je puis dire, au moment de votre intervention. Voilà. Mais vous allez pouvoir nous suivre, bien sûr. Voilà. Et merci de votre participation. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, on va pouvoir débuter avec tous les intervenants. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Voilà pour ce module, cette table ronde ferroviaire sur l'innovation ferroviaire. Ça annonce tout à fait passionnante avec nos invités. Donc, l'avenir du ferroviaire par l'innovation et la multimodalité, comme vous l'avez vu dans le programme. L'innovation technique aussi pour le devenir des petites lignes, évidemment un point très important pour nous aussi dans le Massif central et en Auvergne. Mais l'innovation aussi par les services en gare et la flexibilité de l'offre. Voilà, donc nous avons une heure pour maximum, mais je pense que c'est tout à fait bien pour traiter ce sujet de manière déjà approfondie. Pour cette table ronde, outre moi-même en tant qu'animateur, donc François Pelletier, nous avons cinq intervenants. Gilles Petitet, donc ici présent, voilà, donc directeur technique à la direction des technologies, de l'innovation et des grands projets du groupe SNCF, et responsable d'un projet passionnant, qui est le projet TELI, pour Train Léger Innovant, que Monsieur Petitet va nous présenter. En deuxième position, nous avons Laurine Duivon, qui nous vient de Nancy, qui est chef de projet études et territoires au sein de la SAS, la Société par Action Simplifiée Urban Loop, dont on parle déjà beaucoup et qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Un projet de liaison innovante pour notamment Nancy à l'horizon 2027-2028, vous nous direz tout. Voilà, en milieu urbain, donc un projet qui suit son cours aussi. D'ailleurs, Laurine Buvon interviendra d'autant plus vite qu'elle a un train à prendre pour Nancy assez vite et avec les perturbations en ce moment. Ensuite, nous aurons le témoignage donc de Michael Haddad, donc directeur innovation et partenariat pour la société Alstom, en visio depuis Lyon, puisqu'il est pris par un autre engagement à Lyon. Et enfin, Olivier Le Cornec, directeur général de Ferromobile, un projet de véhicule rail sur rail innovant et qui va nous présenter également. Ça foisonne hein, dans l'innovation ferroviaire, c'est tout à fait intéressant. Et enfin, Jean-Marc Paviero, qui est intervenu également au sein de grandes entreprises comme Matra pour le métro automatique de Lille. En 83, le métro automatique de Lille, le VAL, était une première en France, qui est intervenu aussi pour Alstom, donc spécialiste du développement et des réalisations de systèmes innovants, et son expérience sera précieuse aussi pour cette table ronde. C'est aussi un intervenant du groupe de travail ferroviaire d'Orbimod, et je lui demandais d'être aussi un peu poil à gratter pour cette rencontre. Voilà. Donc, le principe de ces rencontres, de ces tables rondes, chaque intervenant, 5 minutes maximum pour présenter son projet ou apporter sa contribution, et puis, évidemment, aussi la possibilité d'un dialogue avec la salle en complément, c'est important. Alors, on commence tout de suite par Gilles Petitet. Il y aura quelques illustrations qui en soutiennent des propos. Gilles Petitet, à qui je demande, bien sûr, de nous présenter quel contexte créer pour aller vers des expérimentations et surtout de possibles mises en service de ce type.
Alors, 5 minutes, ça va être vraiment très très difficile.
On vous demande un effort.
Voilà, c'est le TGV. Bon. Alors, merci de la possibilité de présenter le projet, parce que jusqu'à présent, on n'a pas forcément tellement parlé du TELI dans les médias ou à l'extérieur de l'entreprise. Donc là, c'est dans les premières occasions qui m'est donné pour pouvoir en parler un petit peu de manière un peu détaillée. Alors, je vais rappeler rapidement, dans ce cas-là, le contexte des petites lignes ferroviaires. Donc, c'est à peu près 9000 km de lignes qui sont, dans le jargon ferroviaire, les lignes de desserte fine du territoire, qui sont les plus petits capillaires dans le réseau ferré national. Pour les caractériser, ce sont majoritairement des lignes qui sont non électrifiées, simplement 10 à 15% du linéaire est électrifié. Elles sont souvent à voie unique, 20 ou 30% à voie unique, c'est-à-dire, enfin, plutôt 80% à voie unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se croiser. Il y a une seule voie pour effectuer le trafic dans un sens et dans l'autre. Donc ce sont des lignes qui sont très très spécifiques et qui intéressent particulièrement les territoires ruraux ou les villes moyennes comme Clermont-Ferrand et puis même Saint-Étienne si on va regarder dans la région Aura. Les enjeux forts du ferroviaire, tout le monde les connaît, je les ai rappelés quand même hein, parce que c'est quand on parle, je discutais avec, tout à l'heure avec quelqu'un du CEREMA, d'externalité positive ou de rôle du ferroviaire dans la société, il faut quand même remettre aussi les choses à leur place. Le ferroviaire dans son ensemble peut vraiment contribuer de manière très positive et fortement à nombre d'enjeux du développement durable. L'accès aux soins, l'accès au travail, l'innovation, la santé, enfin, c'est peut-être assez rebattu, mais c'est quand même important de le rappeler que le ferroviaire a un rôle extrêmement important à jouer dans la société de demain. Ce n'est pas un moyen de transport du passé, c'est au contraire un moyen de transport de l'avenir. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'augmenter sa fréquence, justement, et de permettre aux personnes des territoires en particulier de pouvoir davantage s'appuyer sur le ferroviaire. Alors, dans ce cadre-là, la SNCF propose un certain nombre de projets, il y en a trois en l'occurrence, TELI, DRESI, FLEXI. J'ai surtout parlé du projet TELI. Les deux autres sont des trains beaucoup plus petits qui viennent compléter l'offre et qui ont leurs caractéristiques propres. Dans les cinq minutes, je vais me concentrer sur le TELI. TELI, c'est un consortium de 11 partenaires qui sont à la fois des industriels des ETI et puis des universitaires, voire des personnes du monde plutôt des sciences sociales, qui doit durer 51 mois de 2022, mi-2022 et qui se terminera en 2026. En ce moment même, on est dans une phase assez critique. Je vous expliquerai pourquoi. Donc les caractéristiques, 80 places assises, 80 debout, une longueur à peu près 30 mètres, 101 km/h, une masse 11 tonnes à l'essieu, ce qui est quand même significativement plus bas que ce qu'on rencontre aujourd'hui sur les trains classiques. C'est une approche système. Je parle du train, mais finalement c'est un biais parce que c'est une approche globale, hein, puisque l'objection du projet TELI, c'est bien de réduire 30% les coûts globaux du ferroviaire en agissant sur l'infrastructure, le matériel roulant et l'exploitation. Ce n'est pas simplement un train. Donc pour ça que c'est important de rappeler les aspects sur les travaux de signalisation qui sont assez essentiels aussi si on veut atteindre le bon niveau de service et la bonne réduction des coûts. Il y a également des actions sur la maintenance de l'infrastructure et du matériel roulant. 200 km d'autonomie, j'expliquerai pourquoi c'est bien ce qu'il faut sur des lignes qui font entre 10 et 100 km pour avoir une certaine robustesse dans l'exploitation en fonction des températures et puis des aléas qui peuvent arriver sur la ligne. Une recharge en gare sur la partie batterie avec un système classique à pantographe et une possibilité en option en H2 pour les lignes qui le nécessitent. On travaille aussi sur des aménagements modulaires pour s'adapter au territoire, voire aux besoins de la journée, puisque les besoins des zones de pointe, des moments de pointe sont différents de ceux des creux. Donc il faut pouvoir aussi adapter rapidement les aménagements intérieurs, voire pouvoir ouvrir à des nouveaux business comme du transport de colis pour compléter la logistique urbaine avec le train. Et une accessibilité améliorée, ça c'est un point sur lequel je veux vraiment insister. Puisque on a que 30 à 40% des quais qui permettent un accès de plein pied aux personnes handicapées, l'UFR, mais pas simplement personnes handicapées, ça concerne tout le monde, hein, vous et moi, personnes âgées, personnes avec des bagages, personnes qui ont une poussette. Et donc il y a un vrai axe de développement qui a été réalisé pour favoriser l'accès sur des quais, dans le jargon, à 550, 385, voire 300 mm de haut. Donc voilà, ça c'est un axe extrêmement important de développement. Alors on est à un moment un peu critique, hein, puisqu'on arrive à un jalon pour lequel il faut qu'on ait des manifestations d'intérêt des régions qui nous disent « votre projet nous intéresse », et puis idéalement qu'on ait un mandat pour pouvoir lancer dès 2025 un appel d'offres, de sorte à pouvoir continuer à développer le train, développer les innovations et pouvoir proposer en expérimentation, en test, dès 2029 pour une mise en ligne, voilà, une exploitation commerciale qu'on aimerait pour fin 2030 pour remplacer des trains que vous voyez actuellement en gare, qui sont les petits trains de 30 mètres qui sont diesel et qui arriveront vraisemblablement en fin de vie entre 2032 et 2040. Donc c'est important qu'on ait ce biseau et que toutes les personnes qui ont en charge de définir politique des transports et des matériels roulants s'intéressent et nous permettent de continuer à travailler sur le projet. Voilà.
Le challenge, évidemment, c'est de trouver, avoir les commandes au niveau des AOM, des instances.
Pour les industriels, il faut bien le dire, c'est quand même pour les industriels. Bon, ils ont besoin d'une masse critique de train pour pouvoir continuer à faire le développement et amortir leurs frais fixes, évidemment, sur une volumétrie de train suffisante.
Mais avant, c'est citer l'intérêt des autorités organisatrices de mobilité des régions.
Tout à fait. Tout. Je pense qu'il y a tous les niveaux administratifs, de représentation des territoires qui, à mon avis, ont leur mot à dire sur le sujet.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est 30%, notre estimation pour les villes, de 30% d'économie.
Alors, c'est même assez grave, parce que si on ne fait rien, on va devoir acheter des trains qui sont sur catalogue, qui sont vraisemblablement surcapacitaires par rapport aux besoins de ces petites lignes. Donc on va avoir plus de dépenses. Je pense que si on fonctionne à iso-budget, on va avoir moins de dessertes. Est-ce qu'on acceptera moins de dessertes qu'aujourd'hui? Je ne suis pas certain. Donc il me semble assez important qu'on puisse trouver un successeur à ces petits trains qu'on trouve dans le pays.
On voit d'ailleurs au débat de la table ronde de demain sur les SERM, sur les projets de services express régionaux métropolitains, évidemment les trains innovants, les trains légers, sont aussi un élément très important pour la réussite de ces SERM, et avec des trains donc qui, en termes d'exploitation, notamment pour les petites lignes et les petites lignes de nos régions, représentent évidemment des atouts potentiels. Voilà. Mais merci de cette première contribution. On va passer la parole à Laurent Buzon. Donc, je le rappelle, comme je l'ai présenté tout à l'heure déjà, donc chef de projet études des territoires au sein de la société par action simplifiée Urban Loop. Donc, un projet de capsule innovante. J'en dis pas plus. Et il y a le poids des mots, il y a de l'image des photos.
Oui, c'est ça, 5 minutes, c'est un peu court. Normalement, j'ai deux films pour m'aider à vous présenter Urban Loop un peu plus rapidement. Le premier film, c'est notre système, comment Urban Loop fonctionne. Et le deuxième film, c'est notre démonstrateur à 50 ans en Yvelines pour vous montrer qu'on est passé de l'idée à la réalité. Pour faire vite et pour ne pas être trop redondante pour ceux qui sont là depuis 14 heures, je vais parler rapidement de qu'est-ce que c'est Urban Loop, et puis après je vais vous parler plutôt de Urban Loop pour l'intermodalité et la multimodalité. Donc Urban Loop, c'est les capsules autonomes, donc sans chauffeur, sans batterie. Le système d'alimentation se fait par le rail. On est sur des systèmes, des capsules de 2, 4, 6, voire 10 personnes. Et donc le système permet en fait de desservir les zones périurbaines ou les zones peu denses, les zones où le métro et le tram ne sont pas pertinents, et d'offrir une solution de transport public. L'idée, en fait, elle est assez simple. À la base, Urban Loop, avant d'être une société, c'était un projet étudiant des universités de Lorraine, de Nancy. Le professeur est arrivé dans le cadre d'un projet autour de la mobilité et a dit à ses étudiants: moi, mon problème, c'est que j'habite en dehors de Nancy, et pour venir, j'ai qu'une option, c'est le bus. Mais le bus, il passe qu'à telle heure, à telle heure et à telle heure, et puis il met 4 fois plus de temps qu'avec ma voiture. Résultat, je prends ma voiture, mais avec ma voiture, je suis dans les bouchons. Résultat, j'ai pas vraiment de service de mobilité, de transport pratique autour de chez moi, en habitant en dehors d'un centre urbain. Donc les étudiants ont travaillé, et c'est là qu'est né Urban Loop, avec l'idée de répondre, de concurrencer la voiture sur son temps de trajet, donc en proposant un système Urban Loop qui va jusqu'à 50 km/h, on espère 70, et dans les cas vitesse commerciale de 30 km/h. Et pour ça, il fallait être léger, donc la solution de la voie du rail est là, notamment pour l'électrification du système, et aussi pour des conditions écologiques de ne pas avoir un système sur batterie. Et ensuite, pour gagner du temps, on est aussi sur un système donc en dérivation, ce qui veut dire qu'on ne passe pas aux arrêts intermédiaires. On va de la station 1 à la station 3 sans passer par la 2, si on n'a pas d'intérêt à s'arrêter à la 2, un petit peu comme un ascenseur. Et et un système sans attente, donc avec des capsules toujours disponibles en station. Donc voilà, l'idée d'Urbanum, c'est vraiment c'est de concurrencer personne, ni le métro, ni le tram, ni le vélo, ni la marche à pied, mais de proposer une solution de rabattement, de trouver une solution pour que les gens qui veulent rejoindre les modes lourds, le premier métro, le premier tram, le premier trolleybus, aient une solution, une autre solution que la voiture, et une solution tout aussi pertinente et efficace. C'est ce qui va être mis en place à Nancy dès 2027-2028 dans le cadre d'un grand projet d'aménagement avec la naissance d'une future cité judiciaire. On est sur un rabattement d'un parking relais sorti d'autoroute de Max et Ville, pour ceux qui connaissent peut-être la région, vers le premier arrêt du trolleybus de Nancy, du centre-ville, donc à Saint-Georges, donc en passant sur une ancienne ligne ferroviaire abandonnée, où là on a enlevé toute la ligne ferroviaire et on installe nos propres rails pour emmener les gens du parking relais vers le trolleybus en s'arrêtant, s'ils le souhaitent, par une zone d'activité commerciale, une zone de résidence et la cité judiciaire. Je ne sais pas si ça fait 5 minutes, mais à peu près.
Non, c'est remarquable, c'est remarquable. Vous avez vraiment synthétisé. Alors, évidemment, un des gros challenges d'Urbanum, c'est la capacité de transport des passagers, de passagers, un nombre important de passagers. Je crois que, sous le contrôle d'un spécialiste, un tram, c'est 6 000 personnes par heure. Après, un métro, 25 000. Vous, c'est 1 000 à 1 500, me disiez-vous, lorsqu'on s'est
donné
échangé.
Disons qu'au-dessus de 1 500-2 000 personnes, on commence à perdre en pertinence et à assurer notre service en continu et à la demande. Donc, c'est un peu notre limite. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir, la sortie d'un BHNS, que toutes les personnes qui sortent d'un BHNS puissent compter dans des urban loops assez rapidement.
Alors, 6 personnes, hein, je crois, à Nancy, prévu 4 assises, 2 debout, c'est dans ça. Chaque capsule.
Il y a 50 heures de personnes pour le moment et on développe une gamme de potentiellement 8 à 10 personnes dans des capsules. La capsule de 6 personnes est la chouchoute de nos prospects, de nos clients.
Alors, imaginons à Nancy un événement important à un bout ou à l'autre de la ligne en 2028, afflux important de voyageurs. Vous nous avez dit, vous l'expliquez dans vos documents aussi, qu'il y a possibilité de grouper des capsules vous pouvez arriver à l'équivalent, je crois, d'un bus de 50 places, à peu près 8 capsules. Quoi.
Donc, même un peu plus, voilà. Mais en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment de baisser la capacité et d'augmenter la fréquence. Donc, en fait, on a autant de personnes, mais dans des plus petits bus de 6 personnes pour le
coup. Et après,
on peut les rassembler, en effet. C'est une étude qu'on fait actuellement pour un client pour assurer une circulation et un flux optimal, de combiner les capsules les unes derrière les autres.
Et 10 à 12 secondes entre chaque capsule, c'est ça.
Sur les études qu'on a actuellement et les futurs projets, c'est ce qu'on a. Après, ça varie de la dimension de notre système et du parcours.
Merci de toutes ces précisions. Et puis, on aura l'occasion de développer. Il y aura certainement des questions aussi, dans la mesure de votre disponibilité.
Oui, parce que l'intermodalité, prenne la navette pour prendre le TER.
Voilà, exactement. Donc, on va vous libérer rapidement. Mais merci en tous les cas de cette contribution.
Merci.
C'est tout à fait intéressante. On en vient. On en vient à Alstom. Donc, nous avons avec nous, comme je disais tout à l'heure, en ligne depuis Lyon, Michael Haddad, donc, qui est le directeur du partenariat et de l'innovation de Alstom. Alstom, qu'on ne présente plus comme constructeur ferroviaire, tout particulièrement, enfin, métro, tramway, train, mais évidemment, grand constructeur ferroviaire, deuxième constructeur ferroviaire mondial. Maintenant, Michael Haddad, dans un contact préalable, a dit non, mais on est presque le premier, parce que le premier c'est un chinois, il travaille surtout sur le marché intérieur, donc voilà, donc Alstom en tous les cas se détache, et donc Michael Haddad, la question évidemment pour vous, c'est quid de Alstom et l'innovation ferroviaire?
Je dirais peut-être sur l'innovation ferroviaire, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis aussi en charge de la prospective, j'appartiens à la direction de la stratégie. Et donc si vous avez vu récemment la stade Alstom, qui sont encore brillants, elle se porte très bien parce que dans un monde où la population augmente et la population s'urbanise, on est dans un monde où les gens prennent de plus en plus le train. Et donc on fait face à une demande en transport qui ne fait que croître. Donc l'innovation, elle est surtout sur ce qui fait notre force, c'est l'infrastructure qui nous permet d'être très efficace en énergie, d'avoir très peu d'accidents, mais c'est aussi un Donc il y a beaucoup de travaux autour de la réduction finalement de ce qu'on appelle le coût de possession de matériel, le coût de cette infrastructure, et d'augmenter notamment par la signalisation le nombre de trains qu'on peut mettre sur une ligne, notamment le Paris-Lyon récemment, sans changer l'infrastructure. C'est encore plus important dans les métros, c'est pour ça qu'on a des métros autonomes, donc on travaille là aussi beaucoup sur ces sujets-là. Maintenant, quand on en vient au territoire, comme vous dites, je pense qu'on a, deux volets assez différents. On a la mobilité du quotidien, donc ça va être les trajets pendulaires, domicile, travail, des personnes qui peuvent être dans des zones de faible densité, et puis on a des mobilités plus occasionnelles sur des déplacements professionnels ou des loisirs. Donc j'ai eu la chance de pouvoir essayer le système Urban Loop, et puis je connais très bien aussi alors Delhi et la ferromobile, vos Olivier. Je pense que là, on va être sur des sujets qui vont être très intéressants au niveau de la multimodalité. Donc, lorsqu'on est sur des zones rurales dans lesquelles on a des villages, on commence à avoir une densité de population intéressante, mais dispersée sous forme de cluster. On peut imaginer avoir des stations type Urban ou type ferromobile. Alors, c'est pas exactement le même usage, ferromobile et Urban Loop, parce que c'est pas les mêmes distances, c'est pas les mêmes débits, mais dans lesquels on va venir collecter finalement des passagers qui, pour une ferromobile, aller vers un train régional par exemple, qui, pour un Urban Loop, comme l'a très bien dit Laurine, c'est du rabattement vers une station CERN par exemple. Aujourd'hui, on sait qu'à partir du moment où une personne prend sa voiture, elle reste dans sa voiture. Et donc tout l'enjeu, c'est de lui proposer autre chose. Est-ce que c'est une mobilité active? Est-ce que c'est un Urban Loop pour aller vers un RER ou un CER? Est-ce que c'est une ferromobile ou un flexi pour aller vers un train régional? Mais faire en sorte qu'il ait une offre de transport public qui l'amène ensuite vers un transport plus massifié. Et puis après, on a la question des mobilités intercités. Donc pour nous, c'est le train régional. Donc là, il y a des enjeux de décarbonation essentiellement, puisque certaines lignes ne sont pas électrifiées, et après des problèmes de fiabilité, on est beaucoup dans l'entretien des voies. Et puis, il y a aussi des déplacements professionnels. Donc, comme j'ai dit, une population qui s'urbanise, c'est une population qui prend plus les lignes à grande vitesse, qui prend plus l'avion. Donc, comment on améliore aussi cette intermodalité rail-avion, donc là des sujets d'information voyageurs, de confort aussi, comment on fait préférer le train, donc comment on baisse le coût, voilà tout un tas de sujets de design, de conception.
Il y a des convergences avec Telly, vous travaillez avec Telly déjà?
Oui, on a deux work packages dans le programme Telly. Donc un qui est un module un peu optionnel sur l'hydrogène, mais Telly est plutôt parti aujourd'hui sur une solution batterie. Et puis on avait un sujet aussi virtuel coupling, pouvoir coupler un certain nombre de ces trains pour augmenter la capacité. Et après, c'est vrai que Telly, c'est le matériel roulant. Le très gros sujet de ces lignes désertifiques du territoire, c'est quand même beaucoup l'infrastructure. Parce que même si on avait un matériel roulant pas cher, pour les régions, rénover ces lignes, c'est cher. Notamment lorsqu'il faut installer des systèmes de recharge électrique de batterie, lorsqu'il faut installer une signalisation. Donc on travaille, on a un projet qui s'appelle SIG4LDFD qui vise à travailler sur la signalisation fluviale. Nos amis de chez Thales et Tachy ont aussi un équivalent en quête du système projet Telly pour réduire les coûts de cette signalisation.
Effectivement, ce sont deux consortiums complémentaires finalement et qui travaillent avec Telly.
La signalisation, vous pouvez tous les deux en parler, la signalisation c'est un élément des révolutions ferroviaires prochaines.
Oui, tout à fait. Hein. Enfin, faire du plus de cadencement en maîtrisant les coûts. Parce qu'aujourd'hui, si on veut arriver aux performances de Lyon-Paris, c'est inaccessible pour les petites lignes. Donc il faut réussir à faire de la signalisation pour fluidifier, augmenter le trafic en maîtrisant les coûts. C'est tout l'enjeu, notamment du consortium que pilote Itachiré d'un côté et puis Alstom de l'autre.
Monsieur Haddad, on parle beaucoup dans la presse aussi de, je ne sais pas si c'est un plan secret d'Alstom, les trains sans chauffeur, mais presque sans chauffeur. Ça ne va pas plaire forcément à certains syndicats de la SNCF, mais voilà. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus?
Alors, je pense que d'un point de vue technique, Jean-Marc, on saura plus que moi, puisque c'était un de ses sujets. Mais disons que, si je prends de la hauteur, sur le train autonome, mais je prends une casquette un peu stratégie. Le train autonome, il existe, hein, enfin, il y en a déjà, ce sont des métros. Et le métro, c'est facile, parce qu'on est sur un système qui est fermé avec des portes palières, personne ne peut avoir accès aux voies. Et surtout, le business model est très très simple. On a des infrastructures qui sont figées, on ne va pas creuser les tunnels sous Paris. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'augmenter le nombre de trains à infrastructure constante. Et donc, l'automatisation permet de réduire ce qu'on appelle le headway, donc le temps entre le moment où les portes du dernier train se ferment et les portes du suivant s'ouvrent, on passe d'une minute 50 à 50 secondes. Donc, sur une même infrastructure, tout d'un coup, on a deux fois plus de trains. Donc, le métro, je dirais que dans les Anglais, c'est un no-brainer, on sait exactement pourquoi on le fait. Le sujet ensuite, ça a été le train régional, on avait un projet train de passage autonome, train de fret autonome, entre autres avec la SNCF. Là, le sujet est un peu plus difficile d'abord parce qu'on est sur des voies ouvertes, donc ça veut dire que le train doit avoir connaissance des obstacles, d'incidents. Si je prends un TGV, alors c'est pas un train régional, mais lancé à 300 km/h, il va mettre 5 km à s'arrêter. À 5 km, un obstacle, c'est un pixel. Donc détecter les obstacles, c'est l'enfer. Bon, finalement, on sait qu'il y aura toujours du monde dans un train. Un train régional qui s'arrête entre deux villes à 20 km de tout secours, il y aura toujours du personnel à bord. Donc le modèle économique est un peu moins facile, si ce n'est, c'est très vrai en Allemagne, chez nos amis de la Deutsche Bahn, on a une pénurie de conducteurs de train. Donc il ne s'agit pas de les remplacer, il s'agit de faire avec, sachant qu'on n'a pas assez. Donc l'autonomie du train pourrait apporter, en tout cas on pourrait avoir des conducteurs qui seraient un peu moins de conducteurs, qui permettraient d'assurer le trafic. Et puis, là où on va le voir arriver aussi assez rapidement, c'est probablement sur ce qu'on appelle les manœuvres, donc ce qu'on appelle les locomotives de manœuvre dans les gares, ou tout ce qui est préparation du train. Aujourd'hui, c'est dommage qu'un conducteur, qui est une denrée rare de train, passe son temps à préparer le train sans passager à bord. Et donc ça pourrait être automatisé ou contrôlé à distance.
Merci beaucoup pour cette contribution. Restez avec nous parce qu'il y aura probablement des questions également pour Alstom. Alstom qui croule sous les commandes à travers le monde actuellement, qui a du mal à répondre, je crois, dans les temps.
Oui, alors on a cette chance-là. Hein. Il y a deux jours, j'étais à Valenciennes pour une autre table ronde et encore aussi cet après-midi à Lyon. Je dirais qu'on a une industrie française qui souffre. On a la chance d'avoir un carnet de commandes qui déborde.
Et la demande de train n'a jamais été aussi forte. Hier, Corinne Talotte, directrice de l'innovation à la FTE, témoignait dans une autre table ronde à l'ouverture, plus 20% de fréquentation des TER entre 2019 et 2023, ça continue, et aussi dans notre région, il suffit par exemple d'emprunter les lignes, par exemple entre Issoire et Clermont-Ferrand, ou Vichy et Clermont-Ferrand, voilà, donc le ferroviaire a de l'avenir. Alors maintenant, on va demander à Olivier Le Cornec de témoigner pour Ferromobile. Alors, vous allez nous expliquer, avec de l'image aussi, tout l'apport innovant de Ferromobile. C'est assez décoiffant.
Merci beaucoup, François, pour l'introduction et bonjour à tous. La Ferromobile, cette solution-là, c'est un véhicule e-traveler qui vient rouler sur des rails et qui est capable aussi de sortir de l'emprise ferroviaire. Pour vous en parler, je pourrais vous parler de technologie, de cybersécurité, de système de système, de signalisation virtuelle, d'un tas de choses. Ce qu'on a préféré faire, c'est commencer à vous parler plutôt du contexte et du besoin associé. Pour vous parler des besoins, on est parti de la conjecture de Zahavi. Alors, vous connaissez peut-être. La conjecture de Zahavi, c'est de dire que, quel que soit l'endroit où les gens habitent, ils mettent un budget qui est à peu près d'une heure et demie de transport par jour. Ça dépend après, c'est modulable en fonction des conditions sociales ou autres. Mais c'est environ une heure et demie partout dans le monde. En fonction de ça, et suivant les infrastructures qui ont été faites, l'habitat vient se modifier. Typiquement, si vous regardez 200 ans avant, la distance entre les villages était liée à la capacité de se déplacer à cheval. Et la distance entre les villages est assez liée à ça, assez liée aux routes. Les gens qui ont acheté avec une infrastructure ferroviaire donnée ont acheté leur maison, sont venus se mettre dans des villages qui leur permettaient d'être à une heure et demie de leur travail en aller et retour. Le jour où toutes ces lignes ferroviaires viennent de se fermer, vous retrouvez toute une population qui est quelque part en déshérence par rapport à ces modes de déplacement, qui est forcée de prendre une voiture avec des tarifs de carburant qui changent, forcé de se retrouver dans des embouteillages, et vous allez avoir des impacts territoriaux avec des gens qui vont déménager, des écoles qui vont fermer, etc., etc., etc. Aujourd'hui, vous pouvez me dire qu'il n'y a pas grand monde concerné. Quand on regarde les petites lignes ferroviaires qui sont fermées aujourd'hui, vous avez 6000 km de lignes qui sont entre grades 7 à 9. Si je regarde le nombre de gens qui sont à moins de 10 km des gares concernées, c'est 10 millions de personnes en France. Je vous ai dit 6000 km pour la France, c'est 30 000 km pour l'Europe. Ça, ce sont des présentations de l'UTP, hein, et c'est la carte du MFN. On est aujourd'hui à Clermont-Ferrand.
Des acronymes,
hein. L'UTP, c'est l'Union internationale des transports publics. Le RFN, c'est le réseau ferré national. Alors, excusez-moi, les slides sont en anglais, mais on pourra partager après dessus. Au niveau de Clermont-Ferrand, on a une densité importante de lignes qui sont capables, sur lesquelles on pourrait rouler avec la ferromobile. Deux choses importantes qu'il faudra retenir et je vous expliquerai après. La ferromobile est capable de rouler sur un système ferroviaire tout en le respectant, c'est-à-dire sans démonter d'aiguillage, sans démonter de moyens associés. Un train peut rouler juste après la ferromobile. Et une dernière chose, si ces lignes ferroviaires, si ces 6000 km de lignes ferroviaires ne sont pas utilisées, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est un patrimoine ferroviaire qui n'existera plus. On peut discuter du temps où il faut pour remettre un TER. S'il revient dans 15 ans, aujourd'hui, ça va être beaucoup plus cher. Si je regarde mon véhicule, c'est celui-ci. Il vient rentrer et sortir de la voie ferrée en utilisant des plateformes. Ces plateformes sont grosso modo des plateformes de grave qui sont très peu onéreuses. Et vous voyez, ça ressemble grosso modo à un passage à niveau. Vous allez voir le véhicule rentrer sur la voie. Donc vous voyez se déplacer sur ses roues, se positionner au-dessus des rails. Là, c'est des essais qu'on a fait au Grand Port Maritime de Bordeaux. En fait. Le véhicule a été testé sur des rails qui sont des rails utilisés par des trains lourds de marchandises. Il vient se positionner, il se relève un peu pour être stable. Quand il est sur la zone ferroviaire, il va faire exactement la même chose à l'arrière. Et vous allez voir qu'il va accélérer. Accélérer de façon importante parce qu'il est lié par rapport à ses pneus, par rapport au rail. Il passe d'abord au-dessus d'un aiguillage, de gare de marchandises, donc un aiguillage relativement lourd. Il va accélérer en poursuite et il accélère de façon très rapide. C'est important pour la qualité de service, mais s'il est capable d'accélérer, il est aussi capable de freiner très fort. Et notre vitesse de pointe est à 100 km/h, on s'arrête entre 50 et 100 mètres suivant les conditions d'adhérence du rail et effectivement si gèle ou pas. Donc on opère sur voie unique, on est capable d'avoir des véhicules qui sont capables de sortir de la voie. Alors l'objectif, ils sortent juste sur une partie du parking de la gare ferroviaire. La gare ferroviaire qui n'est plus utilisée. L'objectif n'est pas de faire du premier et dernier kilomètre. L'objectif, c'est de pouvoir mettre des véhicules en attente pour les passagers qui vont arriver. Ou alors, typiquement, faire demi-tour. On va faire demi-tour sur une petite partie du parking qui a déjà été investi, qui n'est plus utilisé, et auquel les gens pourront aller dessus. On va être capable de passer des passages à niveau avec une sécurité ferroviaire qui est exactement celle de la SNCF. On garde exactement toutes les normes du ferroviaire. On a un système de contrôle qui est un système de contrôle virtualisé. Tout se passe à distance. La localisation du véhicule est transmise, l'ATP est effectuée, on a déposé les brevets, on est en train de les développer pour le faire, et ça, ça a quelques dernières. Voilà. Il y a deux choses que je ne vous ai pas dit, très vite. Hein. Sur les chiffrages aujourd'hui, remettre un TER, on a parlé tout à l'heure d'un TER, c'est environ 50 tonnes. Un train léger, c'est aussi plusieurs dizaines de tonnes. Remettre en place un TER, c'est 2 millions d'euros du kilomètre. Ce sont les études qu'on a fait en Occitanie avec nos partenaires Sistra et aussi Réseau FEPAL. SNCF Réseau, pardon. Et SNCF Réseau. Faire rouler un véhicule comme la ferromobile, On a déjà un véhicule qui a été conçu par Stellantis et on a un partenariat avec Stellantis. Il est déjà investi. Le véhicule coûte très peu cher et lui, il ne va coûter que moins de 10 fois le coût de rénovation de l'infrastructure qui est valable pour un TER. Donc ça coûte très peu cher de voir qu'il passe les aiguillages et tout. Et si jamais on a une limitation au niveau de la capacité d'emploi, si vous voulez mettre plus de monde, on arrête la ferromobile, on peut refaire venir un TER. Bien sûr, on est en ville ballast, l'État et autres, etc. J'ai fini.
Merci.
Et en plus, je pense que c'est la Micheline de demain. Ça, tu l'as pas dit. Et ça, interconférence, ça doit nous parler. C'est la Micheline de demain.
C'est, oui, c'est ça aussi tout à fait. Ça interpelle pour les territoires ruraux, notamment aussi qui ont beaucoup de kilomètres de lignes désaffectées, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Une précision aussi, c'est pour l'instant, dans une première phase, si le système se met en place, vous avez un chauffeur. C'est un transport à la demande, mais avec un chauffeur, mais avec possibilité d'automatisation.
Alors, il y a deux choses que je n'ai pas dit. Effectivement, on va rouler début l'année prochaine, on a déjà roulé au Grand Port Maritime de Bordeaux.
Sur combien de kilomètres?
Le Grand Port Maritime de Bordeaux, on a des lignes de 4 km. Là, on va rouler à la ligne des Mouettes, c'est entre Saujon et La Tremblade, à côté de Royan, sur une zone où on roule d'habitude un train touristique, et nous, on va rouler à nos moments, et on est parfaitement compatible du train touristique. On sera décorrélé dans le temps, mais on ne va pas changer le modèle. On aura un conducteur au démarrage, on doit faire toutes nos preuves de dossier de justification auprès du Bureau Veritas et du STRMTG. Et au démarrage, effectivement, on aura un conducteur. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les véhicules sont autonomes, vous avez raison. Ça, c'est une question de business model. Si on a un conducteur pour 7 personnes à bord, on a 7 personnes, il n'y aura pas de business model, il n'y a pas de rentabilité possible du service. Ce que je n'ai pas dit aussi, mais c'était sur le slide, les véhicules peuvent se suivre. On peut très bien avoir 3, 4, 5 véhicules qui suivent. 5 véhicules avec 7 personnes dedans, ça fait 30 personnes. C'est plus que le taux moyen d'occupation d'un TER aujourd'hui, qui est plutôt de 20 personnes en moyenne, parce qu'il n'y en a pas beaucoup du point de vue des horaires.
Alors, vous avez des lignes de test dans l'ouest de la France, il faut trouver une ligne de test en Auvergne aussi.
Ah, là, je suis très bien, là, je suis disponible, je suis là aujourd'hui, demain, tous les échanges aussi.
Merci. Merci, je crois qu'on peut applaudir aussi, monsieur Le Cornet. Voilà. Alors, un dernier intervenant, et puis il y aura probablement des questions dans la foulée. Donc, Jean-Marc Paliero, en tant qu'expert de systèmes innovants également, sur l'expérience de transport innovant chez Matra, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, avec le Val de Lille, le métro automatique de Lille, qui a été le premier métro automatique français en 1983. Et ensuite, Alstom aussi, effectivement. Et donc, Jean-Marc Paliero, qui, avec moi aussi, intervient au sein du groupe de travail ferroviaire d'Orbimob. Alors, Jean-Marc, un petit peu ta vision de tout cela, et alors, si peut-être un peu quoi la gratter.
Voilà, je pense qu'on va voir. Bon, déjà, la jeune femme qui avait là est partie en train, mais vous irez retrouver sur Wikipédia, elle m'a fait rajeunir de 40 ans. Parce que le système qu'il réalise, c'est. Ça s'appelait Aramis, développé par Matra Transport avec les RATP, qui a tourné place Ballard sur Paris. Et c'était normalement en prévision de l'exposition universelle qui n'a pas eu lieu. Et c'est très bien, parce que je pense qu'on aurait aussi besoin de ce type de système, mais qui est un petit peu différent des autres. C'est plus vraiment un système ferré. Les systèmes ferrés qu'on a vus là, je pense que c'est très intéressant. Et pourquoi cela? Parce que, selon moi, ils correspondent beaucoup aux besoins que nous avons sur notre territoire, aux besoins que nous avons aujourd'hui et demain sur notre territoire. Pour être bien compris, je vais vous indiquer ce que sont les fondamentaux du succès d'un système de transport. C'est le fruit de 40 ans de prospection, d'explication dans le monde. Et s'il n'y a pas ça, ça ne peut pas marcher. D'abord, la faisabilité d'un système. Première chose, sécurité. On est dans le 10-9 dans les transports ferroviaires, donc c'est un niveau de sécurité très très élevé. Sur la route, ce sera 10-8, donc ce sera presque pour ça qu'il n'y en aura pas. La capacité et l'insertion du système, ce sont les trois critères qui définissent, qui nous permettent de voir si un système, par rapport à un besoin, est faisable. Ensuite, il faut que le système soit attractif. L'attractivité, c'est quoi? C'est avant tout le cadencement. Il faut qu'il y ait un cadencement suffisant pour que les gens aient un moyen de transport quand ils en ont besoin. Bien sûr, l'intermodalité, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui considérer qu'on va forcément monter dans un système et descendre dans le même système à son point d'arrivée. On est dans des réseaux qui peuvent être maillés comme un arbre. Il y a le tronc, il y a les branches, il y a les petites branches, il y a les feuilles. Un réseau de transport doit être structuré comme ça, bien cadencé, mais d'un point à un autre, ce qu'on appelle la vitesse commerciale, qui n'est pas la vitesse maximum, mais c'est la vitesse que vous mettez pour aller d'un point A à un point B, avec les changements, avec les arrêts, doit être suffisamment élevé. Ça, ce sont les facteurs d'attractivité. Mais après, même si vous avez ça, il faut qu'il y ait la durabilité du système. C'est-à-dire que le système, ben, il ne faut pas qu'il fonctionne toute journée. Il faut qu'il fonctionne sur une période très longue, tant que les gens en ont besoin. Et ça, c'est la durabilité qui va dépendre de la régularité ou, si vous préférez, de la fiabilité. Parce que si vous avez un moyen de transport qui fonctionne un jour sur cinq, vous allez le prendre deux fois et après vous arrêtez. Sa tarification, la tarification doit être simple, surtout quand on parle de système en intermodalité. Il ne faut pas avoir acheté 5 billets pour aller d'un point à un autre. Il faut un billet unique avec une tarification intelligente. Je vous cite un exemple. Moi, quand je travaillais encore en région parisienne, j'avais une voiture, mais de temps en temps, j'aurais bien pris les transports en commun. Sauf que prendre les transports en commun, si je prenais un billet à l'unité, ça me coûtait plus cher que d'y aller en voiture. Et si je prenais une carte, ça me servait un ou deux jours par semaine. Donc la tarification n'était pas adaptée à mon type de besoin. Donc c'est ces aspects-là pour la durabilité qu'il faut voir. Et le total cost ownership, c'est-à-dire le coût global du système pour l'autorité organisatrice, en prenant en compte aussi les passagers de ce système. Et en quoi l'innovation, les différentes innovations qu'on a vues là, vont permettre d'atteindre ça mieux demain qu'aujourd'hui, grâce à une maîtrise justement de ce total ownership. Donc là, vous voyez certaines innovations dont on a parlé, et notre réseau. Ces innovations sont, pour certaines, bien adaptées à notre réseau. Ben, d'abord, le TELIS dont on a parlé. On vient de vous dire, on a des trains par endroits qui sont de petits trains. Après-demain, il faudra bien les remplacer. Donc il en faut. Et il vaut mieux un train type TELIS qui va coûter moins cher à l'exploitation plutôt qu'en prendre un train d'ancienne génération qui coûtera le même prix aujourd'hui d'exploitation avec un confort moindre qui va du coup décourager peut-être des passagers de le prendre et du coup diminuer encore le taux de remplissage, hein, on est dans le métier, le taux de remplissage, et donc augmenter les coûts d'exploitation. Un système comme Resi, on n'en a pas trop parlé, qui est aussi un système SNCF en cours de développement, qui est une plus petite capacité et qui peut aller 30 places, voilà, et qui peut aller sur des lignes aussi plus légères. Alors, selon moi, ce système-là, mais là, la SNCF, pardon, je l'ai rattrapé, je crois, la SNCF, non, pas pour trop, mais aussi parce que sa réalité économique, pour moi, ils seront peut-être pas d'accord, mais n'a de réalité que s'il sera autonome, c'est-à-dire sans conducteur et non présentiel à bord. Je suis désolé, pour faire des distances de 30, 40 km, mais en pleine nature, on n'a pas besoin d'un conducteur à bord. Et les technologies d'aujourd'hui peuvent permettre de le faire. On pourra en discuter, et c'est le seul moyen d'atteindre un total dollar cost acceptable et aussi une flexibilité. Parce que autant avec un grand train type TELIS, vous avez besoin de le remplir pour que ça rentre. Donc, il faut avoir des heures bien précises de départ et un certain cadencement. Quand vous descendez dans des capacités plus faibles, il faut que le matin, à l'heure de pointe, malgré tout, vous ayez plusieurs trains qui peuvent se suivre, mais aux heures creuses, il faut le maintenir. Pas à la même cadence, mais en fonction du besoin. Donc forcément, si vous avez des conducteurs, vous n'exploitez pas en fonction du besoin. Vous exploitez en fonction du planning de travail que vous avez défini pour les conducteurs pour une semaine, 15 jours avant. C'est ça la grande différence entre autonome et pas autonome. C'est que dans un cas, vous utilisez votre système de transport en fonction du besoin de transport, dans le cas, en fonction de ce qui a été programmé. Oui, rapidement, pardon. Donc, là, c'est du matériel qui continue sur le fer. Et avec Alstom, qui travaille sur l'autonomie des TER, mais je pense qu'elle serait plus adaptée sur un Brésil ou sur un petit système. Péromobile, Olivier vous en a beaucoup parlé, et donc justement je pense qu'on a des lignes ici qui sont désaffectées, que certains envisageaient même de démonter. Ça leur redonnerait une nouvelle jeunesse, ça nous permettrait de voir s'il y a une vraie demande de transport, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de demande, il n'y a pas de système. Donc quand on a les datas, on n'a rien. On met des systèmes comme ça à rouler, et puis demain, comme il a dit, si on atteint une capacité très importante, on peut remettre un TER, on peut remettre un système plus gros, parce que la voie n'est pas démontée. Il y a un système Plexi dont je ne parlerai pas, je le connais un peu moins, qui est aussi un système en développement, mais côté RATP, mais qui démonte un petit peu plus les voies, d'après ce que j'ai compris, et qui permet à SNCF en plus. Voilà. Et après, il y a encore une autre génération de systèmes qui, ça, ce sont des véhicules, entre guillemets, traditionnels. Alors, c'est pareil. La SNCF n'en parle pas, mais c'est SNCF, ça, Piona. Piona, c'est un véhicule autonome sur route, mais pas n'importe quelle route. Ce sont des voies qui ont été désaffectées, qui ont été rebitumées, et sur lesquels ils font rouler des véhicules autonomes. Alors vous voyez sur l'image, il y a quand même des rambardes de sécurité sur le côté, parce que comme ce n'est pas sur des rails, dans les scénarios de sécurité des automatismes, il y a quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire, c'est quand on a une certaine vitesse, même si on détecte la panne, le temps de s'arrêter, ben, il ne faut pas qu'on aille faire 2-3 mètres sur le côté. Mais ce sont des systèmes en cours de développement qui vont déboucher, et c'est des solutions applicables sur le territoire, et ce serait bien qu'on puisse appliquer une ou d'autres de ces solutions dans l'année qui vient pour montrer le dynamisme.
Monsieur le député, avant de passer à la parole à la salle, vous souhaitez réagir une seconde sur le délit automatique des chauffeurs
Alors, sur
ça. Bah, sinon, venez là.
Alors, sur les automatismes, il y a effectivement la question du modèle économique. D'ailleurs, même pour un train TI, de toute façon, on viendra plus si on n'est pas dedans. Après, il y a la volonté des régions aussi de voir ou pas des personnes. Je pense que c'est un peu un autre sujet, c'est est-ce qu'on conserve à l'intérieur du train des agents, voilà, pour un peu les mettre en sécurité, les rassurer, ou est-ce qu'on n'en met pas. Je pense que ça porte le débat un petit peu sur un autre sujet.
Dans les années 80, on disait la même chose pour les métros, mais les gens, maintenant, ils ne savent même pas qu'il y a un conducteur ou s'il n'y en a pas.
Moi, au niveau des régions, je pense que le débat il reste encore là-dessus. En tout cas, ça posait encore question côté région quand on présente le 30. De mettre ou pas des gens à l'intérieur, de remettre de l'humain dedans.
Je vais bien vous aider si vous voulez.
On va proposer à la salle aussi de réagir. Je ne sais pas s'il y a des questions pour nos intervenants dans ce débat passionnant sur le, qui est ouvert vers l'avenir. Madame.
Incident sur le système autonome.
Est-ce que ça marche?
Non. Oui. Non.
Si, c'est bon. On vous entend.
Non, la question, c'est parce que c'est vrai que il y a l'humanisation. C'est un sujet effectivement qui peut être un sujet régional, mais en dehors de ça, moi, je sais que j'ai été confrontée plusieurs fois à des sujets de peur, d'abîmement, des choses comme ça. Et c'est vrai que le conducteur avait un rôle à jouer dans ce cadre-là, et j'ai pu être entre guillemets dépannée beaucoup plus rapidement. Alors c'est pas le mécano d'antan comme on l'entendait à l'époque, mais cependant il avait un rôle, et on avait des incidents qui duraient beaucoup moins longtemps parce que il y avait du personnel à bord. Donc le sujet, c'est pas tant l'humanisation qui est un sujet malgré tout, mais il y a aussi ce côté dépannage rapide. Donc effectivement c'est un coût, mais c'est aussi, voilà, il y a ce sujet là et donc vous faites comment? Vous avez des équipes de dépannage mobile, voilà, comment ça se passe?
Alors, je vais commencer à répondre pour la ferronnerie. Il y a déjà deux sujets. On ne parlera pas d'humanisation, puisque le véhicule de nous ne veut pas dire véhicule déshumanisé, mais c'est un sujet à part. Par rapport aux animaux, on va parler de sangliers, on va parler de cerfs, on va parler aussi de ramasseurs de champignons, ce que vous voulez par rapport à ça. On a des véhicules qui sont équipés de technologies, qui sont des technologies typiquement pour ce qu'on embarque, issus de Stellantis, qui vont être certifiés, qui vont suivre toutes les dernières générations de niveau 4. Et vous devez voir que les prochains tests de RENCAP seront compatibles de la protection de la vie sauvage, c'est-à-dire et des sangliers, et des cerfs, et de l'ensemble. On a des éléments supplémentaires de contrôle par rapport à ces éléments-là. Et on a un véhicule qui est capable de s'arrêter en 100 mètres, dans des conditions avec des feuilles, du gel, tout ça, etc. Donc on est capable de le détecter avec nos radars, nos lidars, nos caméras, avec des choses qui sont industrielles, développées avec Stellantis. On est capable d'arrêter le véhicule, on est capable de le mitiguer. À partir de là, on est aussi capable de le remonter à la supervision avec tout un tas de technologies qu'on va expliquer, et on a des procédures opérationnelles pour ce faire. Donc c'est effectivement quelque chose qui est prévu. Alors c'est assez différent d'un train, hein, parce que le train, son objectif, lui, c'est de ne pas dérailler. Donc quelque part, s'il y a un sanglier, il va le vaporiser. Nous, on a un véhicule qui est beaucoup plus léger. On doit prendre en compte tous ces éléments, ce qui nous met aussi des technologies qui, même si on respecte tous les critères ferroviaires du passage d'un passage à niveau, nous permettre aussi, s'il y a un événement redouté, un piéton sur le passage à niveau, d'utiliser aussi toutes ces technologies pour le protéger.
Gilles Petitet, peut-être très rapidement aussi une réaction sur cette question.
Oui, alors côté train autonome, en fait, il y a une partie du guide de dépannage. Voilà, votre conducteur a appliqué le guide de dépannage. Aujourd'hui, on a des trains qui sont de plus en plus instrumentés, où on a fait de la maintenance prédictive, en mettant pas mal de capteurs. Donc, en fin de compte, ce qu'on vise aussi, c'est d'avoir une possibilité de diagnostic du train. Voilà, déjà pour pouvoir faire un certain nombre de choses, déjà identifier le problème, c'est-à-dire une fois qu'on l'a identifié, on ne l'a pas réglé, et pour certains organes, être en capacité d'intervenir dessus à distance. Donc je pense que c'est un peu comme le système que vous parliez. Après, il y a d'autres stratégies aussi qui consistent à avoir des équipes mobiles pour venir intervenir. Donc en fait, une fois qu'on a fait le diagnostic, soit on arrive à gérer à distance, voilà, à travers un certain nombre d'automatismes qui permettent de mettre en sécurité, d'isoler ou pas l'organe qui est défectueux. Et puis, si c'est vraiment ça va pas, faire intervenir des personnes qui sont mobilisées, voilà, c'est une espèce d'équipe qui peut venir sur site. Je pense que c'est également la même stratégie. Hein. Et dans ce cas-là, tout l'enjeu, c'est de bien les positionner pour que l'intervention soit sur des temps raisonnables.
C'est pour ça qu'on ne va pas faire des systèmes sans conducteur à bord qui vont faire 200 km. Il faut que ce soit des distances suffisamment courtes. Moi, j'aurais un ordre de grandeur maximum, c'est 40-50 km. Mais le rabattement ne va pas aller au-delà, c'est même plutôt 30 km. Et là, vous pouvez avoir 7-8 véhicules qui vont avoir à circuler. Si vous avez deux personnes en permanent quelque part, ils peuvent intervenir. Mais tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle d'analyse de sécurité, de use case, à analyser, de vérifier qu'il y a les moyens de télécommunication qui sont mis en place, etc. Et ça, quand on fait un système autonome, ça fait partie des études de base et des moyens de prévention qu'on met en place.
Et c'est vrai, pour, si je peux me permettre de compléter, c'est quand on arrive dans les zones denses, ça peut aussi avoir un enjeu intéressant pour augmenter la fluidité, respecter les horaires. Donc finalement, automatiquement, on se trouve dans un périmètre qui est assez restreint par rapport à l'utilisation en extrémité.
Y a-t-il une autre question?
Alors, on va regarder le micro. Pas de temps.
Juste une question par rapport en fait au ferromobile. Sur les lignes, notamment sur le Livradois-Forez, on a en fait des lignes qui sont soit suspendues, soit en état divers. Hein, voilà, je dirais sur le syndicat mixte du Livradois-Forez, je pense notamment. Est-ce que c'est des choses qui éventuellement peuvent être envisagées? Enfin, moi, je vois le tronçon Courpierre Pont d'Or, par exemple, à Saint-Charles, quelque part. Voilà, ou je sais pas. Et après, sur le fameux tronçon qui est suspendu actuellement en fait entre Thiers et puis Bois-sur-Lignon, où aujourd'hui malheureusement il y a des passages à niveau qui ont été bitumés, donc ils ont supprimé les rails, ce qui fait que là ça pose quand même des problématiques. Voilà, savoir un petit peu quelles sont les contraintes. On est plusieurs associations à lutter justement sur le massif central pour défendre le ferroviaire, l'ouverture d'esprit sur l'innovation, que ce soit sur la signalisation ou sur effectivement de nouveaux types de moyens de déplacement. On n'est pas fermé. Par contre, voilà, c'est juste savoir exactement qu'on est en fait sur l'infrastructure, le type d'infrastructure existante, ou si c'est plus léger, après ça empêche le fret. Enfin voilà, automatiquement on a de ce type d'interrogation, savoir si sur ce système-là, ça peut être sur une infrastructure existante, une infrastructure en mauvais état. Enfin, quelles sont les contraintes derrière aussi, parce que j'imagine qu'il faut qu'il y ait un minimum, quoi.
Merci.
Alors, ça va être difficile de répondre en juste quelques secondes. Les lignes qu'on a regardées aujourd'hui, quand je vous parlais des lignes entre 7 et 9, c'est le grade 7 à grade 9, en fait, hein, avec des lignes qui sont relativement en bon état, mais qui demandent à être faites par rapport à ça. On se rend compte qu'on a très peu de travaux de ballast à faire. Parce qu'on fait une tonne à l'essieu, on a un véhicule qui fait 3 tonnes 100 au total, donc 1 tonne 6 à l'essieu, et donc on a beaucoup moins de travaux à faire qu'un train lourd. L'autre chose, au niveau de la signalisation, on a une signalisation qui est entièrement virtualisée, alors, sauf au niveau des passages à niveau. Donc tout ce qui est, on pourrait parler d'interlocking, on pourrait parler d'enclenchement, on pourrait parler de choses de ce type-là. On n'a plus du tout de câbles qui sont investis, ni de goulottes qui sont effectuées. On utilise toujours les pédales pour les passages à niveau, pour garantir la sécurité des passages à niveau. Si le passage à niveau a été complètement démonté, alors après, il y a une étude de sécurité à faire pour savoir comment on peut passer. Il y a des cas où on ne peut pas passer. Il est hors de question de prendre des risques par rapport à ça. On garantira tout le temps la sécurité. Si les rails ont été bitumés, il y a clairement une problématique. Le véhicule qui va passer sur ces roues, il ne va pas passer très rapidement. Il va passer dans environ à 10 km/h. Parce que son objectif n'est pas de rouler sur une route ouverte. Par rapport aux trains lourds, puisqu'on en parlait, on a roulé sur le grand port maritime de Bordeaux, on avait des trains lourds qui ont roulé, qui ont transporté des centaines de tonnes juste après. Typiquement, on a des discussions avec le SRMTG où il y a des lignes, où il y a un train de fret qui passe une fois par semaine, une fois par mois. Je n'ai pas le droit de rouler sur une ligne ouverte au RFN. Par contre, on peut la couper de façon temporaire, et c'est ce qu'on est en train de discuter avec le SRMTG, pour qu'une fois que le train de fret est passé, on coupe. La SNCF opère avec son signal d'enclenchement virtualisé. Une fois que le train de fret veut revenir, la BFR mobile doit s'en aller et on remet le circuit dans la RFN. Ça revient exactement à ce qu'on fait sur le train touristique de la ligne des Mouettes. Vous avez des locomotives diesel, vous avez des wagons type PLM et autres qui passent. On va rouler. Quand on sort, le train peut rouler et on peut rouler 10 minutes après lui, en fait. On ne modifie rien et on conserve un patrimoine. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ce qu'on fait ou de ce qu'on investit qui n'est pas utile pour un train normal. J'ai répondu à toutes les questions, il y en a que j'ai passé. Voilà.
Je dois garantir le temps, donc je ne sais pas si on a le temps de prendre encore une question.
Oui, merci.
Une question.
Alors juste, en fait, pour témoigner justement d'un projet en fait qui sur le massif central a lieu entre Guéret et Feltin, où là effectivement on a sorti toute la panoplie de ce qui a été présenté, avec justement des trains autonomes donc semi-légers qui pourraient justement répondre à des problématiques. Mais le vrai enjeu en réalité, c'est de ne pas fermer la ligne en 2025. Parce que là, en fait, on a généré beaucoup d'espoir, sauf que si ça se trouve l'année prochaine, connaissant en fait le taux de fréquentation et le déficit de cette ligne, il y a un risque réel qu'on ferme la ligne, et là effectivement on se retrouve dans le sujet de fermeture temporaire qui fait qu'on ne réouvrira jamais. Et c'est le cas en fait parce que derrière Feltin en fait on a fermé la ligne il y a bien longtemps et en fait la ligne n'est pas réouvrable. Donc en fait le projet en fait de voiture de type Stellantis pour moi permettrait effectivement, enfin, là il y a vraiment quelque chose d'intéressant parce que au-delà de l'usage et de l'intérêt qui a été très pertinent, je vois que ça peut permettre de conserver un usage peut-être minimum, mais au moins de garder une possibilité que cette ligne ne soit pas considérée comme définitivement fermée.
Alors, juste l'usage minimum, on est minimum en termes de nombre de personnes qui se déplacent par jour. Par contre, on est un service premium. Les véhicules sont à la demande. Si vous avez besoin d'un véhicule à 10h10, à 11h15, à 8h du matin ou à 22h le soir, vous avez un véhicule dans le sens où vous voulez, pour aller où vous voulez.
Je parlais de minimum en coût d'exploitation.
Oui, mais ça m'a donné l'opportunité de faire la réponse, donc j'en ai profité.
Très bien. Eh bien, merci à tous nos participants, participantes, et merci à toutes et à tous de votre participation. On vous donne rendez-vous demain pour un autre sujet, une autre table ronde ferroviaire à 11h, qui sera cette fois consacrée au CERM, au CERM, au projet de service express régional métropolitain pour l'aire clermontoise et aussi stéphanoise, qui sont des projets qui font partie de la première shortlist retenue par les pouvoirs publics pour les CERM donc, des grandes métropoles françaises. Bon, on verra, c'est une première étape, on verra pour la suite, on va être prudent. Et donc il y aura notamment la directrice exécutive de la Société des grands projets qui dépend des pouvoirs publics et qui est chargée pour les pouvoirs publics d'appuyer les projets de ces RER, on va dire, on va reprendre la première appellation, même si RER convient peut-être pas, pour les grandes métropoles régionales. Il y aura également Frédéric Bonichon, qui est le président du pôle métropolitain, qui intervient fortement pour la réalisation de ce CERM clermontois, avec Jean-Yves Leschler, qui est le directeur général du SMTC, le syndicat mixte des transports de la métropole clermontoise. Voilà, et également Gilles Petitet, qui reviendra. Donc pour l'innovation, comme on le disait tout à l'heure, l'innovation est un élément très important pour le succès des CERM. Il y a d'autres invités aussi, mais voilà, vous avez déjà les grandes lignes pour le rendez-vous de demain. Donc on espère que vous comptez nombreux avec nous et nombreuses pour ce autre rendez-vous ferroviaire du sommet des mobilités territoriales durables.